Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 24 août. Les services de la métropole sont à pied d'œuvre pour réparer les dégâts importants occasionnés par une rupture de canalisation il y a une dizaine de jours. L'UNEF, le syndicat étudiant, pointe du doigt une augmentation de plus de 5% de la vie étudiante à Lyon. Un nouveau quartier se dessine à Villeurbanne. L'ancienne friche ACI va permettre de construire un nouveau morceau de ville sur quelques 5 hectares, à quelques encablures des gratte-ciels. Reportage complet sur ce projet. La 23e édition du festival Woodstower débute aujourd'hui. Au bord du lac du Grand Parc de Méribel-Jonage, le réseau TCL s'adapte au festival.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, retour sur ce tragique accident de trottinette qui a endeuillé deux familles. Deux ados ont péri en effet lundi en fin de journée après avoir été percutés par une ambulance. Les jeunes de 15 et 17 ans étaient en couple. L'enquête avance pour connaître les circonstances de cet effroyable accident. En intervention pour le SAMU, l'ambulance était considérée comme un véhicule prioritaire. Elle était donc autorisée à circuler dans le couloir réservé aux bus, vélos et trottinettes. Mais le conducteur avait-il actionné son klaxon et son gyrophare. En tout cas, sa garde à vue a été prolongée et ses antécédents ne plaident pas en sa faveur. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête du chef d'homicide involontaire. Une vitesse excessive de l'ambulance a été évoquée dès le soir des faits, compte tenu des dégâts constatés sur le côté droit du véhicule. Le dépistage alcoolique s'est révélé négatif sur le conducteur de l'ambulance, mais son permis probatoire ne comportait plus que 2 points sur 8. Ce Lyonnais de 36 ans avait perdu le précédent permis en 2019, après avoir commis près d'une trentaine d'infractions et un délit pour un défaut d'assurance. 10 jours après la rupture d'une canalisation qui a provoqué l'inondation du Quai Sarail le 14 août, les services de la métropole s'affairent à réparer les importants dégâts occasionnés. Le Grand Lyon annonce le remplacement en cours d'une quarantaine de mètres de canalisation. Le travail le plus urgent concerne les accès pour les véhicules de secours et pour les camions de collecte des ordures ménagères. Une solution provisoire à partir de demain, jeudi, permettra aux camions de collecte de circuler dans le périmètre de la rue Vauban, du Quai Sarail et des cours de la Liberté et Lafayette. Mais cette solution engendrera l'interdiction temporaire de stationnement dans le secteur. Les accès au commerce vont également être facilités pour réduire au maximum l'impact pour les professionnels du quartier. La circulation des bus devrait être rétablie le 19 septembre. Idem pour la circulation automobile sur le quai, mais il faudra 3 semaines de plus pour que l'espace public retrouve son état d'origine. En attendant, les automobilistes en transit doivent éviter le secteur en privilégiant la rive droite et l'itinéraire de déviation fléché depuis le pont Morand. Les cyclistes et les piétons peuvent quant à eux accéder au secteur, en dehors bien sûr des zones de chantier.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Dans son enquête annuelle, l'UNEF, le syndicat étudiant, pointe du doigt une augmentation de 5,13% de la vie étudiante à Lyon. 637 euros de dépenses supplémentaires sur l'année. Selon l'étude, Lyon est la deuxième ville universitaire de province la plus chère pour les étudiants dans l'Hexagone. Le syndicat demande la mise en place de politiques publiques locales pérennes. L'UNEF demande concrètement une hausse du montant des APL adaptée au coût du logement sur les différents territoires. Également, l'encadrement obligatoire des loyers ainsi que des moyens suffisants pour le faire respecter. Concernant le CROUS, le syndicat souhaite la construction de résidences universitaires respectant les normes en matière d'isolation thermique et d'hygiène, ainsi que la mise en accessibilité de l'ensemble des bâtiments gérés par le CROUS pour les étudiants en situation de handicap. Au sujet des transports en commun, le syndicat UNEF propose la mise en place du tarif réduit solidaire de 10 euros à l'ensemble des étudiants dès la rentrée prochaine. L'augmentation du nombre de bus, tramways et métros rejoignant les sites universitaires aux heures de pointe et des politiques publiques volontaristes pour parvenir à la gratuité des transports pour les étudiants et les moins de 25 ans.
Lyon Demain, le média influenceur d'avenir.
Il est rare que l'on puisse véritablement parler de nouveaux quartiers dans une ville de Lyon déjà fortement urbanisée. Il y a eu la Confluence, gagnée sur d'anciens terrains SNCF, ou la Soie, sur d'anciens terrains industriels. Moins important en termes de superficie, mais pour autant très emblématique, la friche ACI de Villeurbanne va permettre de construire un nouveau morceau de ville sur quelques 5 hectares, à quelques encablures des gratte-ciels. Cédric Van Stevendel, Noël, le maire d'Ille-Orban.
Sur ce site, il y a eu plein d'activités, sur ce site qui s'appelle ACI, puisqu'il était propriété de Renault jusqu'à maintenant. On a commencé par le traitement des déchets de la soie, ensuite il y a eu, pendant la guerre, la construction d'aviation militaire, et puis ensuite la mécanique auto est arrivée avec une activité importante pour ACI qui faisait des châssis. Voilà, donc ça a été le projet industriel pendant très longtemps. Renault a souhaité regrouper ses équipements de production dans un autre lieu, et donc ce site pouvait être transformé. On en avait besoin pour que la ligne T6 du tram passe sur cet espace-là, et à partir de là, on a discuté avec Renault pour trouver un projet immobilier qui permette à la fois que le tram passe, qu'il y ait de l'habitat, et puis un parc de 2,3 hectares. Voilà très rapidement le projet qui prendra naissance au cours des années à venir ici.
C'est un quartier qui sera mixte, hein, comme on dit aujourd'hui ?
Oui, un quartier mixte avec quand même une dimension habitat assez importante, hein, puisque sur les 40 000 mètres construits, il y a 4 000 mètres pour l'activité, donc c'est quand même une vocation habitat importante. Mais en parallèle de cette vocation habitat importante, il y a aussi un parc de 2,3 hectares. C'est assez rare quand même quand on a des emprises de 4 hectares qui se libèrent, qu'on affecte plus de la moitié du foncier à un parc, qui plus est sur un site qui a été industrialisé, c'est-à-dire qu'il faut enlever tout le bitume, tout le ciment, tout dépolluer pour remettre de la nature en ville. Donc c'est quand même un projet là-dessus qui est assez exemplaire.
Avant de pouvoir accueillir un parc, de nouveaux logements, des équipements publics et de nouvelles activités artisanales, le site ACI doit faire l'objet de déconstruction et de dépollution. Objectif, donner un nouveau souffle à un tellement resté industriel pendant des décennies. Guillaume Ribet, directeur général de Ginkgo Advisor, sélectionné avec BNP Paribas Immobilier pour mener à bien la requalification du site.
Donc on est déjà en présence d'un site qui est entièrement bâti. Donc pour le rendre habitable, il faut d'abord déconstruire et désamianter le site. Et ensuite, la dépollution doit se faire en fonction du projet qui est en cours de discussion. On dépollue toujours en fonction d'un projet. L'objectif, c'est de rendre le site complètement compatible avec le nouvel usage. On est sur un site qui a été très bien tenu par Renault, avec beaucoup de documentation sur ce qui a été fait. Donc on est en présence de quelque chose qui est bien maîtrisé, bien connu. La pollution, là, c'est essentiellement des hydrocarbures. La stratégie, ça va consister à trier les matériaux sur site, sortir les hydrocarbures, aller les traiter hors site et puis recycler un maximum de matériaux pour rendre le site compatible avec le projet.
Parmi les contraintes imposées aux promoteurs pour ce nouveau quartier, le passage du futur tram T6 et l'aménagement d'un parc de quelque 2,4 hectares. Savinien de Pizol, architecte et dirigeant de Dumétier Design.
L'objectif qui était important, c'était de créer un parc dans ce quartier. Enfin, le projet initial, c'est un parc. Et ensuite, c'est de comment on réussit à construire autour de ce parc. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de tisser du lien avec l'environnement proche, le tissu urbain existant. C'est ce qui a dessiné le projet du quartier, en réussissant à créer un réseau viaire qui est lié avec les environnants, et puis de conserver des entrées. Il y a toute l'entrée sud qui donne sur les gratte-ciels du parc, et puis il y avait aussi l'entrée nord sur l'avenue Roger Saint-Lingro qui nous paraissait vraiment importante et historique, en fait, qui traverse les deux petits bâtiments en R+1. On a rarement l'occasion d'être travaillé sur des quartiers aussi beaux et aussi bien placés, donc oui, ça va être un quartier magnifique. Et puis construire autour d'un nouveau parc de 2,5 hectares, c'est très rare, oui.
Il y aura sur le site 41 500 m² construits, en comptant certains bâtiments existants qui vont être conservés, en particulier l'entrée de l'ancienne usine ACI. Les deux tiers du site seront végétalisés. Conséquence, ce quartier bétonné, véritable îlot de chaleur, deviendra un îlot de fraîcheur. Pour en savoir plus sur le projet, nous avons rencontré Béatrice Fessier, élue à Ville-Orban et vice-présidente de la métropole en charge de l'urbanisme.
C'est un terrain qui est immense, hein, plus de 5 hectares en plein centre de Ville-Orban, à deux pas des gratte-ciels, de la Doie, de l'avenue Salingro. Donc on va le transformer en un nouveau quartier très végétalisé, très agréable, puisqu'il va se déployer autour d'un parc de 2,3 hectares, traversé par le tramway T6 avec une station qui sera à proximité de l'avenue Salingro, et avec des nouvelles constructions d'habitats et de bureaux, une crèche, et aussi la conservation des bâtiments existants, parce que ce site industriel d'ACI a des bâtiments qui ont un intérêt patrimonial que nous souhaitons conserver pour aussi avoir la mémoire industrielle de cet ensemble, et parce qu'ils sont en bon état et qui pourront être réhabilités et transformés en bureaux ou en local d'activité artisanale. Donc ce quartier, il sera très ouvert, hein, avec ce grand parc central, très végétalisé. Les venelles qui seront construites pour desservir les îlots d'habitat ne seront pas circulées, hein. Les voitures des ménages, des nouveaux immeubles rentreront par les rues existantes. existantes, mais on ne crée pas de nouvelles rues. On ne fait que des venelles très végétalisées, très apaisées, piétons, vélos. Donc du coup, je pense que ça sera un quartier très agréable, très adapté aux enjeux de la ville d'aujourd'hui, adapté au réchauffement climatique, avec ce véritable poumon vert de plus de 2 hectares 3 que va aménager la ville.
Sur un plan organisationnel, c'est confié à un opérateur, hein, c'est ça, c'est pas vous en direct qui menez l'opération ?
Alors effectivement, dans d'autres endroits, à Villeurbanne ou ailleurs, quand on fait des grosses opérations d'aménagement sur des surfaces de ce type, on fait en général des zones d'aménagement concertées, des ZAC, où on a la maîtrise foncière, ou en tout cas on a une procédure un peu lourde qui permet de bien maîtriser les choses. Là, on a trouvé le moyen de bien maîtriser aussi ce qui va être construit en termes de programme, en termes d'architecture, de paysage, d'environnement, mais on a fait le choix de ne pas acheter nous-mêmes Métropole, le terrain, parce qu'on n'aurait pas été dans le délai de la livraison du tramway T6. On a l'objectif de mettre en service le tramway T6 en début 2026, et pour ça, il faut que le Citral puisse commencer à poser les rails en janvier 2024, et dans un délai aussi court, nos métropoles, en tant que collectivité, on ne pouvait pas faire toutes les procédures réglementaires et passer nos marchés publics pour livrer le terrain dépollué, déconstruit au Citral en janvier 2024. Et l'intérêt de passer par un opérateur privé, c'est qu'effectivement, il a moins de contraintes, notamment sur la question des marchés publics, parce que les contraintes réglementaires de la cessation d'activité industrielle, les exigences de dépollution, elles seront les mêmes. Mais on sait qu'il saura faire dans le délai de janvier 2024 pour donner le terrain au Citral et donner aussi le terrain à la ville qui pourra réfléchir à ce grand parc municipal dont je parlais de 2 hectares. Donc c'est un choix effectivement qui a été conduit par nos contraintes de délai, mais honnêtement le travail très étroit que nous avons conduit avec Renault pour poser nos exigences, hein, ville, métropole, que ce soit en termes de programme habitat, programme d'activité, le parc, la crèche, la qualité environnementale des logements, des constructions, tout ça on l'a bien imposé. Renault a été un partenaire vraiment très, très sérieux, très fiable. Et du coup, le projet que nous avons retenu avec BNP Ginko et le cabinet d'architectes du métier design nous paraît répondre à toutes ces exigences. En tout cas, c'est pour ça qu'on les a retenues.
Tout à l'heure, j'ai entendu les mots de ville de demain. En quoi ce quartier, c'est un peu la ville de demain ?
Alors, c'est la ville de demain parce que d'abord, elle est faite autour d'un véritable poumon vert, parce qu'elle est desservie par un tramway. Elle sera avec des venelles sans voiture, donc très végétalisée, des constructions exemplaires en termes de confort d'habiter, de construction bas carbone, de ventilation, d'exposition, de multi-orientation. Et puis parce qu'on fait un quartier mixte, on veut garder de l'activité dans ce quartier. Hein, c'était historiquement un îlot à vocation économique. Il gardera une vocation économique et la ville, c'est de mettre des emplois, des habitants, des espaces publics, des équipements publics. Tout ça dans une composition et une cohérence paysagère et dans un confort d'usage très important. Donc je pense que construire un quartier avec un nombre de logements important, hein, 700 logements, mais dans une grande qualité paysagère et beaucoup de nature, avec une démobilité décarbonée, hein, qui privilégiera à la fois le transport en commun, le tramway, la marche, le vélo, plutôt que la voiture. On est à deux pas des gratte-ciels, on est à deux pas de la Doie, donc on aura là vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis la ville de demain, c'est aussi celle qui respecte la ville d'hier, et le fait que nous puissions garder des bâtiments, que nous faisions le choix de réhabiliter des bâtiments qui ont un intérêt patrimonial, c'est à la fois la mémoire du quartier, mais c'est aussi, en termes strictement environnemental, un bilan carbone plus intéressant que de démolir et reconstruire. Donc voilà, ce projet, il a plusieurs composantes qui sont très intéressantes pour s'adapter aux enjeux environnementaux de la ville de demain et aux enjeux de la solidarité, parce que nous aurons 40% de logements abordables dans la programmation de logements familiaux et 30% de logements sociaux pour ce qui concerne le logement étudiant, le logement senior. Donc c'est un quartier durable, solidaire, que j'espère nous allons réussir tous ensemble, et nous en parlerons avec les habitants très prochainement, puisque même s'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà décidées, il reste encore à discuter avec les habitants, notamment du parc.
Béatrice Vessier, vice-présidente de la Métropole en charge de l'urbanisme. La mise en vente des logements et le début des travaux sont prévus en 2024. Un calendrier serré pour un projet pour le moins emblématique et ambitieux. La 23e édition du festival Woodstower se déroule au parc de Méribel-Jonage à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour encourager les festivaliers à utiliser les transports en commun. Le Citral renforce son offre sur le réseau TCL. Ainsi, l'itinéraire de la ligne 30 sera exceptionnellement étendu ce soir et demain soir jusqu'à la gare de la Part-Dieu via Vaux-en-Velin-la-Soie de 23h30 à 1h30 avec une fréquence de 10 minutes. À noter également que le parc relais de la Soie fermera à 2h30 au lieu de 1h durant ces deux nuits. Et puis pour vendredi, la ligne N80 reprend son itinéraire normal de Grand Parc Le Morlaix à Vaux-en-Velin-la-Soie et sera prolongée en soirée jusqu'à 1h30 avec une fréquence de 20 minutes. Samedi, cette ligne sera mise en service de 4h15 à 6h15 avec une fréquence de 10 minutes, puis sera étendue en soirée jusqu'à 1h30 avec une fréquence de 20 minutes. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, mêmes antennes. Excellente journée.